Alors, ben, bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Alors moi je m'excuse si j'ai un peu moins de voix parce que le groupe Lahore de hier soir, c'était vachement sympa et ils m'ont fait beaucoup chanter. Ben, bienvenue à cette table ronde sur l'Homo Futur avec Sylvie Lenné, Ménéas Marfil et Pierre Bordage. Je vais commencer par une petite présentation de ces trois auteurs parce que peut-être que vous ne les connaissez pas tous. Donc d'abord, ma gauche, Sylvie Lenné. Donc, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais donc tu...
Stop.
Ah, ça y est déjà, ça commence.
Ce n'est pas Sylvie Lenné.
Ah, zut.
Moi, je suis Pierre Bordage.
Ah, d'accord. Bon.
Et moi, je suis Anne Fakouri.
Ah, bon.
On est mal.
Alors, tu es professeur en sciences de l'information et de la communication. D'abord, tu l'as été à Lyon 1, puis à Lyon 3.
Ah, ça, c'est du précis.
Ah, c'est précis, hein. Et tu as commencé avec le fanzine Les Lames Vorpales avec donc Marcus Lecht dans les années 80, donc, qui tient la librairie Temps Livre à Lyon, pour ceux qui connaissent.
Dans les années 30,
non ? Les années 30 ? Oui. sur la mode en ce moment, ces années-là, malheureusement. Donc, tu as écrit du coup, un certain nombre de nouvelles dans des revues et tu avais publié 4 recueils de nouvelles donc chez ActuSF. Qui sont maintenant regroupés dans un seul, quasiment une intégrale de tout ce que tu as fait, qui s'appelle Fila à ton pas balancé, qui est sorti en fin d'année 2016.
En novembre.
Novembre, voilà. Il y a aussi à noter quand même le petit livre L'animal chez Organic dans la collection La petite bulle d'univers, voilà, qui est, l'éditeur est là aujourd'hui si vous voulez voir le livre. Donc illustré, petit livre illustré, petite nouvelle illustrée, voilà, par Philippe Oreille et François-Olivier Brunet.
Francis-Olivier
Brunet. Et quand même, pour toutes tes nouvelles, donc tu n'écris que des nouvelles, en tout ça en fait une trentaine je pense, parce qu'il y en a 26 déjà dans Fil à la tombe à balancer, et tu as quand même eu un certain nombre de prix, hein. J'ai regardé 4 prix Ronnie Aîné, 2 grands prix de l'imaginaire, un prix Bob Moran, et puis un prix du lundi, un prix Rien n'aurait mieux, un prix 7e continent. On peut dire qu'en termes de nouvelles de science-fiction en France, tu es un peu, tu t'imposes un peu comme...
Je cumule.
Voilà, tu cumules pas mal, et tu es un peu l'auteur... l'auteur phare, la nouvelliste phare de science-fiction en France, quoi. Et vraiment, si vous aimez les nouvelles de science-fiction, je pense que je vous conseille fortement de lire Fil à ton pas balancé, parce que pour moi, c'est vraiment 26 petites merveilles, voilà, c'est plein d'idées, c'est plein de poésie, c'est, voilà, je trouve ça vraiment incroyable. Voilà, je suis toujours très dithyrambique, il faut le savoir. Alors, après, on a Ménéas Marfil, donc...
Oui.
Donc, tu m'arrêtes aussi si je dis des bêtises.
Oui.
Donc, toi, tu as beaucoup voyagé. Tu as d'ailleurs consacré ta vie un peu à l'enseignement alternatif basé sur le voyage.
Oui, exact, exact.
Tu as même fait de l'humanitaire. Et là, tu es surtout posé là maintenant à Madagascar où je crois que tu enseignes le français, c'est ça ? Ou peut-être
oui,
autre chose.
Ouais, non, ouais. J'enseigne plus rien. Ce fut un temps, oui, pour l'Alliance française, mais c'est bon, et ça, c'est terminé.
Voilà, sur l'île Onat, d'ailleurs, je crois, hein, qui est qui intervient dans ton dernier livre, Lemuria, d'ailleurs. Mais si tu l'as un peu renommé, c'est ça, hein, tu as changé, je crois, un peu la typo de l'île Onat, tu ne l'écris pas pareil.
Je l'écris pas pareil, oui.
Et donc, toi, tu as écrit la trilogie des fabuleuses histoires de Pandore, tout d'abord, qui est composée donc, de la Madagascar, le saut de Siamé et le secret de Gaïa. Ensuite, on a le diptyque Petit Cuivre, donc Petit Cuivre, le secret de l'Arche d'Alliance et Petit Cuivre contre le Grand Virtueur. Le roman Seul, la pierre des ténèbres, et là, vient de sortir, hier, je crois, Lemuria, du coup, au Diable Mauvert, qui, du coup, toi, tes livres, ils sont quand même très empreints de ces mythes, de ces légendes qu'on trouve, notamment à Madagascar, dans Lemuria, ça parle quand même en partie de Lémurien, donc on est quand même là-dedans, mais tu en fais quelque chose d'autre, c'est-à-dire que tu relis ça au mythe des Lémures, au mythe de l'Atlantide,
voilà,
voilà. Et donc on revient quand même dans la science-fiction.
D'accord.
Et alors, Pierre Bordage, je vais peut-être te présenter moi en détail parce que tu as écrit une quarantaine de livres, ce qui prendrait la séance.
Hein? Erreur, 60 maintenant.
En 60, on en est ? Ah ouais, quand même.
Bon.
Voilà. Bon. Voilà, ça s'impose comme ça. Hein. Donc je pense que.
C'est ça. Il y a 25 qui sort le mois prochain.
C'est ça. Il se trouve quand même que. Oui, t'écris plusieurs livres par an, quoi, finalement. Donc,
en moyenne.
On n'en est pas loin avec notre blague. Je pense que tu es peut-être l'auteur de science-fiction français le plus connu à l'heure actuelle. Le cycle qui t'a fait connaître, c'est le cycle de la trilogie des Guerriers du Silence, qui a quand même vraiment relancé le space opéra en France, je pense, qui a quand même été un des plus gros succès de la science-fiction française depuis longtemps maintenant. J'ai noté 50 000 exemplaires vendus quand même. Ensuite, on a de nombreux autres succès, les fables de Lumpur, le diptyque Wang, l'ange mineur qui était une uchronie qui se passait en 1792. Tu aimes bien le côté feuilleton série, il y avait Roel le Conquérant qui était quand même en 14 volumes. Pareil, je me rappelle que les derniers hommes, c'était sorti je crois en 6 volumes en librio au départ, maintenant c'est un seul volume chez Folio SF. La fraternité du Panka qui était en 5 volumes, l'histoire de 5 frères aussi dans un monde de space opéra. Là où je me rends bien compte, moi qui suis libraire, en librairie, on t'avait beaucoup connu pour l'Évangile du Serpent qui sortait un petit peu de l'imaginaire, qui partait un peu vers le thriller, mais qui gardait quand même cette touche. Et donc là, récemment, tu commences un nouveau cycle de fantasy avec Arcane chez Bragelonne, qui sera une trilogie, je crois.
Non, c'est
un diptyque. D'accord. Et en même temps.
T'es sûr ?
Si ça tient dans
deux, le deuxième tome fera 900 pages alors. Et en même temps, Écho dans le temps chez Gélu, qui est directement chantillé qui est une histoire très sympathique, justement d'homme au futur qui vient vivre à notre époque en fait, de manière pas forcément évidente. Donc, pour la petite anecdote, tu es arrivé à écrire la science-fiction d'une manière que je trouve assez amusante, c'est-à-dire que c'était ton prof de banjo, Patrick Couton, qui t'a emmené vers l'éditeur La Talente, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Il m'a pris en stop un jour quand j'étais étudiant, et il y avait plein d'instruments de musique dans sa voiture, et je lui demande ce qu'il faisait, il m'a dit « je vais donner un concert », et je vois un étui rond avec un « je sais quoi ça ?» Il me dit « c'est un banjo ». Il dit « ah, j'adore le banjo ». Il me dit « bah, si tu veux, je te donne des cours ». Une semaine après, je suis allé frapper chez lui, et j'ai dit « je viens prendre des cours de banjo ». Il me dit « t'en as un ? » Non. Il m'en a prêté un et voilà, c'est comme ça que c'est né l'amitié. Puis après, j'ai découvert qu'il était traducteur à La Talente. C'est comme ça que j'ai eu. Ouais.
Traducteur de Terry Pratchett notamment. Hein.
Pratchett et de Card pour les fantômes de la vie ne faisaient. Et je l'ai appelé 12 ans après. Je lui ai dit voilà, j'ai un manuscrit. Il faut se méfier d'un copain qui appelle qui dit j'ai un manuscrit. Parce que, en général,
c'est sûr.
Est-ce que tu penses que je peux l'envoyer à La Talente? Il m'a dit ouais, il n'y a pas de problème. Et puis 3 semaines après, j'ai reçu un coup de fil de l'éditeur qui m'a dit
C'était les Garibitions d'ailleurs.
Ouais, c'était les Garibitions.
Et donc toi aussi, Henri Bombelle de prix, hein, 2 prix Bob Morane, un grand prix de l'imaginaire, un prix Tour Eiffel, un prix aux imaginales aussi. Voilà, donc petite présentation. Donc le sujet du jour, c'est l'homme au futur. Moi, j'ai presque envie de dire l'humain du futur, parce que l'homme, c'est un peu, c'est presque un peu réducteur. Mais bon. alors la première question que je vais vous poser, c'est finalement... d'homme au futur, est-ce qu'on n'y est pas déjà un peu ? C'est-à-dire que, est-ce que les moyens de communication, les nouvelles technologies qui sont arrivées depuis quelques années, n'ont pas fait déjà de nous des hommes du futur, des hommes différents des générations précédentes ? Première question que je vous pose, je vous lance là-dessus. Qui veut peut-être intervenir en premier ? Pierre ne veut pas. Ménéas, peut-être ?
Oui, allez, on peut. On va se lancer.
Vas-y, lance-toi.
Oui, je crois que tu fais bien de faire une petite différence entre l'homme et l'humain. Entre
oui, l'homme et la femme et aussi.
Voilà, c'est ça.
Disais au sens très large.
C'est ça. On va dire l'humain du futur, alors.
Oui, l'humain du futur. Maintenant, non, je pense que quelle qu'ait été l'époque, l'homme n'a jamais cessé, il n'a jamais été le même, il n'a jamais cessé d'évoluer en fonction des nouvelles technologies qui apparaissaient. C'est pourquoi ce thème dont on va parler aujourd'hui, le transhumanisme, on a parfois du mal à penser qu'il y ait réellement le mot humain à l'intérieur, quand on voit précisément qu'il s'agit de remplacer toute ou partie de l'homme de demain par des composants, des...
On va y venir, mais la question du transhumanisme, c'est toujours à partir de quel moment on n'est plus un être humain, quoi, aussi. Hein. Donc ça...
Oui, mais justement, voilà, dans cette question, il y en a qui disent, mais à partir du moment, du jour déjà où on a accepté un pacemaker, ça veut dire qu'on a accepté d'être en partie augmenté, puisqu'il s'agit de ça, d'augmentation de...
Ah oui, parce que sans les personnes qui ont un pacemaker, on ne peut pas survivre sans, donc effectivement, on a une idée de modification assez profonde de l'être humain. Peut-être que toi, tu...
Oui, alors... si tu parles d'humain du futur, moi a priori je me demande, je comprends au sens, est-ce que les bébés qui naissent ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui sont nés il y a 1000 ans ou au Moyen-Âge. Moi je pense que les biologistes considèrent que en termes d'innés, on a exactement le même capital génétique que, que des générations depuis des milliers d'années. Hein. Je ne crois pas qu'on ait changé dans notre nature profonde. Maintenant, notre environnement a changé. Voilà. Et notre rapport au monde a changé. Et il change de plus en plus tôt, puisque maintenant, même tout petit, on voit des bébés qui ça va tout juste attraper un hocher et qui commencent à mettre les doigts sur les tablettes. C'est clair que le rapport au monde et le virtuel, ça change.
Mais est-ce que c'est un changement suffisamment profond pour qu'on parle d'un homme différent, d'un homme augmenté, comme on l'entend souvent, ou connecté ?
Alors, j'ai horreur de faire ça quand je suis dans un cadre SF, mais je vais faire un truc que je déteste. Je vais prendre ma casquette de prof 5 minutes.
Ok. Allez.
Bon, excuse-moi, j'ai affaire.
Je te comprends, mais je vais être brève.
Ça nous rappellera tous nos études.
C'est juste pour dire que je suis prof depuis suffisamment longtemps pour avoir vu changer les générations d'étudiants qui sont devant moi. Et ce que j'ai vu changer il y a 10-20 ans, c'est des changements qui sont liés à l'amélioration de notre environnement, en un sens. Moi, j'étais étudiante dans une période où, pour découvrir des connaissances nouvelles, fallait faire des efforts. Fallait aller chercher dans des bibliothèques, fallait aller discuter avec des gens, fallait se déplacer. 10-20 ans après, on était déjà dans un environnement où on était sursaturé d'informations. C'est-à-dire que le rapport à l'information, au lieu d'avoir à faire des efforts pour la trouver, j'ai l'impression que mes étudiants ont développé des très bonnes capacités à filtrer, à éliminer le surplus. Parce qu'ils en reçoivent en permanence. Nous aussi, on en reçoit tous en permanence. Entre Internet, les réseaux sociaux... les médias traditionnels qui continuent à exister.
Les écrans qui se multiplient dans tous les lieux.
Et on est tous devenus beaucoup plus multitâches qu'on était aussi. On fait tout le temps 36 choses en même temps. Je ne sais pas vous, mais moi je pourrais être en train de me retenir pour ne pas avoir ma tablette. Je ne l'ai pas sortie parce que je suis polie, mais on fait tout ça. Mes étudiants, quand je fais cours maintenant, ils ont tous soit un ordinateur, soit un téléphone, et ils font des trucs dessus. Je ne vais pas vérifier ce qu'ils font. C'est probablement, enfin c'est pas certain que c'est en rapport avec ce que je suis en train de leur raconter, mais ils gèrent ça, ils ont l'habitude de gérer du multitâche. Donc, et moi j'avoue d'ailleurs que quand je fais qu'une seule chose en même temps, je m'ennuie. Donc, ils ont développé des stratégies pour filtrer et ne garder que ce qui leur semble significatif.
Ouais.
C'est pas terrible quand on est prof.
Bah, j'imagine, ouais.
C'est pas terrible parce que les stratégies de filtrage consistent essentiellement à se demander qu'est-ce qui va être utile et qu'est-ce qu'on a besoin de retenir qu'on ne pourra pas retrouver facilement. Or, potentiellement, tout le monde croit qu'il peut retrouver à peu près tout facilement, ce qui n'est pas forcément vrai.
Ah non,
c'est un petit peu un piège. Et puis, je vais, avant que Pierre s'endorme, je vais essayer de ne pas te parler trop longtemps parce que je sais que je l'embête.
Non.
Mais il y a eu une période où on développait des stratégies pour ne pas accumuler trop d'informations dans nos mémoires. Maintenant, on ne connaît même plus les numéros de téléphone de nos proches. Hein. Ils sont dans les mémoires de nos appareils. Je pense que notre capacité mémorielle, elle a dû un petit peu chuter. Mais là, je commence à avoir des vrais soucis avec mes étudiants parce qu'ils commencent à faire du filtrage aussi vis-à-vis des connaissances procédurales, des manières de travailler, des apprentissages profonds qui ne sont pas juste de la description et de l'énumération. Et ça, c'est beaucoup plus problématique, parce que je me retrouve à... Vous ne leur direz pas que j'ai dit ça, parce qu'ils ne seraient pas contents. Mais je me retrouve à expliquer des trucs.
Dans,
oui, je crois pas. J'ai fait attention, j'ai regardé. Je me retrouve à expliquer un truc au cours d'une séance. Puis ça va, j'explique bien en détail, on fait des exos, tout le monde a compris. Je reprends le même truc 15 jours plus tard. Ils avaient compris sur le moment, mais ils ont complètement zappé et on repart à zéro. Ils n'ont pas engrangé la procédure.
Ouais.
Donc, voilà.
Du coup, alors, peut-être, Pierre, si tu veux rebondir là-dessus, mais je me demandais si du coup ça ne va pas entraîner une dépendance technologique de l'être humain, parce qu'on y est peut-être déjà. Hein, mais,
Alors, concernant, enfin, pour moi, je ne m'exprime qu'en monde, je ne suis pas scientifique, rien du tout. Pour moi, l'homme actuel n'a absolument pas changé de l'homme préhistorique.
Mmh.
Je pense qu'on est toujours mu par les mêmes émotions fondamentales, qui sont l'amour, la jalousie, la colère, enfin, etc. Et on a toujours ça en nous. Simplement, on a augmenté nos capacités technologiques, augmenté notre pouvoir de nuisance, augmenté plein de choses comme ça, mais je ne pense pas qu'on ait changé fondamentalement les choses. Je pense que la réflexion sur l'humain, elle est encore à venir, parce que je pense qu'on n'a pas atteint l'humanité tout simplement. On se relève à peine de l'animalité et je pense qu'on est loin du chemin de l'humanité. Donc on va parler transhumanisme, post-humanisme, mais je pense que c'est beaucoup trop tôt. Parce que j'ai l'impression que si on augmente l'homme sans qu'il ait changé ses mécanismes profonds, on ira vers des catastrophes parce que on n'aura pas compris ce qu'était l'humanité. Et tant qu'on ne comprend pas l'humanité, on ne peut pas avancer. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe dans le monde. C'est vrai que technologiquement, on est beaucoup plus balèze, on est tous reliés, connectés, machin truc. Mais il y a des guerres partout et qui sont très destructrices. Il y a des idéologies qui se mettent en place. On voit cette élection présidentielle qui se profile et on voit qu'il y a des retours vers des anciens comportements, comme si le 39-45 avait été entièrement balayé, qui sont des retours aux frontières, à la fermeture et tout ça. Et je pense qu'on est presque dans une régression humaine par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. On voit l'Europe, par exemple, qui était un projet humaniste très fort et très important, à mon avis, qui était très moderne, du coup, qui aurait pu changer les choses, une autre vision du monde moins centrée sur les frontières, le nationalisme et tous ces conditionnements multiples. Je vois ce qu'elle est devenue, qu'elle est en train d'être émiettée par à la fois le monde libéral et puis à la fois par ses retours au conditionnement premier, qui sont l'instinct grégaire finalement de l'homme primitif. Et le travail sur l'homme, il n'est pas fait, quoi. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans nos mécanismes profonds et d'étudier qui nous sommes, les humains. Et je pense qu'il y a un truc fondamental pour l'humain, c'est qu'il est mortel. Et ça, cet horizon de la mortalité fait qu'on est mort de trouille, finalement, parce que la clepsydre, elle est sur nous, et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'abattre. Et ça, je pense que ces peurs fondamentales engendrent des sortes de repli sur soi ou des espèces d'adhésion à des mécanismes de pensée tout faits, tout rassurants finalement, parce qu'on est ensemble avec d'autres gens qui pensent la même chose que nous, et donc ce qui crée des divisions permanentes dans l'humanité et des conflits, etc., et c'est sans fin, quoi. Donc je vais encore citer Krishnamurti, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, l'Indien, qui dit que la pensée crée du temps, on est dans le temps psychologique, et si on reste dans le temps psychologique, on va toujours reproduire les mêmes mécanismes, qu'on soit connecté ou pas. D'ailleurs, les connexions, ça sert à quoi? Ça sert à affiquer les gens, ça sert à exposer des bagnoles si on veut, ça sert à plein de choses. Donc, si on n'a pas cette espèce de réflexion sur la pensée et le temps qu'elle crée, eh bien, on reproduira toujours les mêmes conneries, les mêmes erreurs, pardon. Donc, voilà, moi, c'est ma réflexion, et dans tous mes livres, ce que j'essaie de déterrer ou d'explorer, c'est l'humain sur toutes ses facettes, y compris sa propre monstruosité en soi, qui fait partie des mécanismes qu'on essaie de cacher, que souvent les religions essayaient de cacher, mais qui sont ces mécanismes qui nous manipulent, c'est-à-dire que les monstres en nous, si on ne va pas les regarder quelque part, eh ben on fera toujours les mêmes erreurs, parce qu'on sera repris par eux, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans tes
romans. Désolé d'avoir plombé l'atmosphère d'un seul coup.
Dans tes romans, c'est vrai que souvent tu fais des romans choraux, où il y a plusieurs voix qui s'expriment,
ouais.
Et souvent il y a cette idée d'une humanité qui se transcende, qui est une nouvelle humanité qui apparaît. Mais là, sur ce que tu disais aussi, il y a un courant du transhumanisme qui est comme ça, moi je le vois. Je vois, par exemple, moi je sais que j'ai un client à ma librairie qui n'est pas très vieux, mais qui doit avoir 65 ans, et qui, je pense, ce monsieur est très angoissé par l'idée de mourir dans pas si longtemps, et il me commande que des livres sur le transhumanisme. Et je pense qu'il a l'idéologie que la science va trouver un moyen de le rendre immortel, en fait.
Oui, je suis persuadé. J'ai vu ça l'autre jour, un représentant du mouvement post-humaniste qui est passé à la télévision, je ne sais plus à quelle occasion, et qui disait, oui, on va vers l'immortalité, voilà. Oui, on va vers ceci, vers cela. Et moi, j'ai envie de lui dire, tu t'es en train de te planquer, gars, parce que l'humanité, sa caractéristique principale, c'est d'être mortel. Et donc, tant qu'on n'a pas accepté cet état de fait, qui est, voilà, on est, on meurt, on est, on grandit, on vieillit, on meurt, ce qui se passe partout dans la nature, partout autour de soi, tant qu'on n'a pas accepté cette condition-là, on sera toujours sujet on sera toujours prêt à se jeter dans les bras des prêts à penser que sont les religions qui manipulent en permanence. Quoi.
Peut-être, Ménas, si tu veux en voir, je t'ai senti.
Oui, sur plusieurs petites choses. Par exemple, tout à l'heure, Sylvie, tu parlais de ces possibilités que nous ont données les tablettes, toute cette nouvelle technologie. Bon, mais je pense que toi, tu as un public étudiants, ouais, je ne me trompe pas, donc oui, oui. Ce sont déjà quasiment des adultes.
Ah oui, c'est des jeunes adultes.
Mais quand on met ça en parallèle avec le fait que, par exemple, les grands inventeurs de ces technologies, qui sont les patrons de Microsoft, de Google, etc., eux ont fait le choix depuis longtemps de ne jamais... Leurs enfants sont interdits jusqu'à l'âge de 10 ans, ils sont interdits de tablettes, d'avoir un téléphone portable sur eux, etc. C'est-à-dire qu'eux ont déjà mesuré depuis un moment le danger que pouvait représenter ça. Et on le voit à travers certaines expériences qui ont été faites chez des plus jeunes, en leur demandant simplement de dessiner, quand on fait le test du dessin chez des gamins de 4-5 ans, entre ceux qui ont 3 heures de télévision et 2 heures d'ordinateur par jour, et ceux qui ne les ont pas, on voit très bien que leur représentation du monde est complètement différente. Les uns vont faire des personnages, le bras c'est juste un petit bâtonnet, là où les autres vont mettre déjà du volume, des... Parce que ce dont on se raconte, ça peut être intéressant de se dire, oui, c'est bien, je peux faire plusieurs choses à la fois, je suis capable de gérer plusieurs choses. Mais ce qu'on mesure, c'est aussi une perte de l'attention. Parce que la structuration même du cerveau, elle passe aussi par la manipulation des objets, quelque chose de réel. Quand j'apprends qu'en Finlande, il y a déjà des écoles où... On a cessé de leur apprendre à écrire. Pourquoi ? Parce qu'on n'utilise plus que des claviers et qu'eux sont dans cette position de penser que, ben oui, ça ne sert plus à grand-chose d'avoir un stylo et de... Bon, si ce n'est que... Moi, je pense que là, on est dans une perte de ce qui avait été un acquis. Quand on apprend à écrire, il y a longtemps qu'on a abandonné les pleins et les déliés, mais n'empêche qu'il y avait quelque chose de corporel à travers ça. Et puis une forme pour chacune des lettres. Quand on tape au clavier, c'est le même geste qu'on tape un F, un B ou un Z. C'est un geste unique qui donne plus cette notion à la fois de la diversité. Et je crois que là, on court aussi un véritable danger si on s'embarque, parce qu'il n'y a pas de réflexion. En termes d'humanité, je rejoins complètement Pierre. L'humanité reste quelque chose à bâtir. Et si on... Pour moi, hein, si j'engage aussi pareil que moi, je suis pas scientifique, j'ai pas cet esprit scientifique, c'est le contraire, je me positionne dans un esprit où moi je pense que l'individu a vraiment besoin de tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire se couper de la nature, parce que la corrélation qui va de pair avec le développement des technologies, c'est qu'on est de moins en moins connecté aux arbres, aux oiseaux, aux machins, tout ce qui aurait pu... Voilà, nous aider à définir notre propre place dans un écosystème.
Déjà, le fait d'avoir un rapport avec la nature, j'aurais tendance à dire que c'est pas trop quelque chose qui est lié aux technologies, c'est le fait d'habiter à la ville ou à la campagne qui est quand même le plus décisif.
Oui, déjà.
On peut emmener sa tablette sous un arbre, hein. S'il y a du wifi jusque-là.
S'il y a du wifi, voilà.
Oui, je te vois.
Mais, entre ce que disait Ménéas et ce que disait Pierre, je trouve qu'on a mêlé des tas de choses qui sont pertinentes, mais qui sont difficiles à traiter tout ensemble. C'est-à-dire que la question de la régression sociale au sens des valeurs humaines qu'on privilégie. Je trouve que les technologies ont bon dos si on leur fait porter la responsabilité de ça.
Il n'y a pas de responsabilité technologique.
Oui,
la technologie reste.
Mais moi, j'identifie une autre responsabilité, c'est le libéralisme galopant. Si l'Europe a été complètement dénaturée en tant que projet, c'est parce que c'est devenu un projet purement économique et libéral. Pour moi, c'est ça qui empoisonne beaucoup de sociétés qui essaient de s'échafauder ces derniers temps. Et quant à la technologie, c'est comme n'importe quel outil ou n'importe quel marteau. C'est un truc génial avec lequel on peut faire des trucs merveilleux ou des trucs abominables. Donc effectivement, si on n'a pas... Mais je trouve ça... C'est l'intention des auteurs. On est tous en train de travailler sur ce qu'est l'humain, ce que c'est que les émotions, ce que c'est que nos échelles de valeurs, ce que c'est les questions fondamentales de l'humanité. Autant je crois qu'il est nécessaire, chacun dans sa vie personnelle, d'y réfléchir, et nous en tant qu'auteurs d'y travailler, et aux philosophes d'y réfléchir, pour transmettre aussi des réflexions un peu plus élaborées. Autant je ne vois pas ce que ça peut être un projet qui vise à améliorer l'humanité. Je ne comprends pas. La religion a essayé d'améliorer l'humanité. Je ne suis pas convaincue du résultat obtenu, personnellement, mais on n'est peut-être pas d'accord avec Pierre là-dessus.
Non, pas du tout. Alors, on va faire le distinguo, parce que la religion n'améliore absolument pas l'humanité, même elle l'avilie, à mon avis. Mais parce qu'elle capte l'aspiration spirituelle de l'homme, qui est à mon avis naturelle, et qu'elle elle s'en empare, et qu'elle crée un corpus de pensées, de dogmes, qui emprisonne au lieu de libérer.
Donc, oui. Alors, après, les aspirations spirituelles, elles sont importantes pour tout être intelligent, je pense. Ouais. Pas seulement les hommes, d'ailleurs. S'il y a des êtres intelligents ailleurs, je pense qu'ils ont aussi des aspirations spirituelles.
C'est ce qu'on trouve beaucoup dans tes nouvelles, d'ailleurs.
Oui, je crois qu'il y en a partout. Ouais, c'est... Mais même les machines à laver ont des aspirations spirituelles.
Tout le monde. Mais finalement, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce soit la religion ou la technologie, c'est qu'elles ont été utilisées à des fins qui étaient, alors soit par dans un contexte de libéralisme ou dans un contexte même plus ancien, je pense, pour la religion, où c'était une question de prise de pouvoir, au final, et profil d'une élite, quoi.
J'irais même plus loin. Je pense que la technologie est la fille des religions. Je vais essayer de m'en sortir.
Allez, maintenant
parce que je pense que l'aspiration spirituelle, c'est un retour vers soi. C'est-à-dire que nous sommes tous différents. Vous avez remarqué, d'ailleurs, moi, je suis dans une position où je vous vois tous, vous me voyez, d'une manière, on est très différents, ne serait-ce que par notre position géographique. Personne dans cette salle n'a la même vision du monde. Et je pense que l'aspiration spirituelle, c'est aller vers soi-même pour trouver sa liberté intérieure. Les religions ont fait dépendre cette liberté de quelqu'un d'extérieur, un Dieu intervenant. Dans les religions, entre autres monothéistes, c'est Dieu qui décide. Dieu crée, Dieu accorde ses grâces ou envoie ses punitions. Donc on dépend d'un monde extérieur. De la même façon que la technologie nous fait dépendre, comme si notre bonheur pouvait dépendre d'un iPhone, d'une machine à laver. Oui, ça fait le bonheur de certaines femmes. Hein. Je suis entièrement d'accord.
La technologie certains hommes aussi.
Hein. Non, mais à l'époque, c'était les femmes qui réclamaient quand elles sont arrivées. Maintenant, oui, c'est différent. Mais je parle de l'époque des années 50.
Non, mais le linge propre, tout le monde aime.
C'est vrai. Ah non, moi, j'adore mon linge sale. Et donc, c'est comme si on faisait dépendre notre bonheur de facteurs extérieurs. Et c'est là où on se plante entièrement, je pense, parce que la religion a essayé de le faire, ça ne marche pas. C'est pour ça que j'adore les enseignements paradoxaux du Tao, ce genre d'enseignements qui ne laissent jamais de certitude, parce que les certitudes, je pense, n'existent pas. De la religion qui faisait dépendre notre bonheur de quelqu'un d'extérieur, la technologie reprend le même code, hein, c'est-à-dire si vous possédez cet iPhone-là ou cet outil-là, cet ordinateur-là, vous allez être heureux. Et en fait, on ne l'est pas plus. La technologie reste la technologie. Je ne dis pas que la technologie soit négative, elle n'est négative ni positive, elle est. C'est la technologie qui permet de favoriser certains aspects de la vie, mais ça reste de la technologie et ça ne répond pas aux aspirations fondamentales, à mon avis. On parlait d'immortalité tout à l'heure, c'est quand même une question posée par le mythe de Gilgamesh, qui est de 2500 ans avant Jésus-Christ, je crois, où le personnage part en quête d'immortalité pour ressusciter son ami, et il ne trouve pas l'immortalité. Et c'est une question qui est
Il finit par se mettre tous les dieux à deux.
C'est une question qui est fondamentale dans l'humanité, ça a été déjà posé dans la mythologie, et la science-fiction repose ce problème-là, la post-humanité repose ce problème-là, de l'immortalité. Et je pense que ce sont des fausses solutions. Ce ne sont pas des solutions, ce sont des outils. Et on prend les outils pour la solution, souvent.
C'est même, moi, je dirais même que les religions ou la technologie, c'est pas qu'elles nous donnent l'illusion de nous rendre heureux, c'est qu'elles nous donnent l'illusion qu'on sera malheureux sans elles.
Oui, c'est créer un manque.
Voilà, c'est ça.
Moi, quand j'étais petit, j'étais extrêmement terrifié par le fait que je risquais l'enfer pour l'éternité. Mm. M'y cramer pour l'éternité, ça fait quoi, déjà? Et puis, il n'y a pas de fin. Et ça, c'était terrifiant, quoi. C'était de souffrir pour l'éternité. Et c'est quelque part la religion avait ce poids de nous maintenir dans une certaine dans un système de pensée, sinon on allait souffrir pour à jamais. Et c'est quand même assez terrifiant quand on y pense. Je suis désolé s'il y a des gens qui sont.
Bah après, peut-être que ces personnes seront assez ouvertes pour entendre ce que tu dis.
Je pense que dans chaque religion, d'ailleurs, il y a...
Vas-y, réagis. Je te laisse...
Non, mais je suis absolument d'accord là avec ce que vient de dire Pierre. C'est pas vrai. Je vais même peut-être aller encore plus dans le même sens, c'est-à-dire que je pense que fondamentalement, un des aspects essentiels de la spiritualité, c'est le doute. Et que quand on rêve d'immortalité, on a envie de figer les choses. On veut qu'elles ne changent plus. C'est une vision égoïste, mais en fait, c'est une tendance naturelle qu'on a, à mon avis, quand on est... quand on n'a pas pris assez de recul sur les choses, peut-être, c'est l'envie que les choses soient immuables, immobiles, éternelles et figées. Et moi, j'ai découvert, ça va peut-être vous surprendre comme lien, mais j'ai découvert au moins un point commun entre la science et le bouddhisme.
Je suis curieux d'entendre ça.
Oui, j'ai un ami qui est un grand maître zen, et l'essentiel de son enseignement, c'est le fait qu'il faut accepter que rien n'est figé, que rien n'est immuable, que tout se transforme, y compris soi-même. Et si on souffre, c'est uniquement parce qu'on essaie de s'accrocher à des choses dont on voudrait qu'elles ne se transforment jamais. Ce qui est, on court à l'échec si on espère ça et on est sûr de souffrir. Donc ne pas souffrir dans la vision zen, c'est accepter que tout se transforme, tout change, rien n'est éternel. Ben, la science, c'est pareil. Hein. Aucune théorie scientifique n'est posée comme certaine. On n'a que des hypothèses. Il n'y a pas de loi scientifique. On n'a que des hypothèses qui n'ont pas encore été invalidées, c'est-à-dire dont on n'a pas encore démontré qu'on pouvait les jeter à la poubelle. Mais aucune hypothèse scientifique n'est jamais confirmée. Et donc la spiritualité, pour moi, c'est être capable de ne pas avoir des certitudes tout le temps.
Tout à fait. C'est
les interroger en permanence.
Clé. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de figer le temps, de figer les choses. C'est une tendance naturelle. Et le système de pensée fige. C'est qu'on disait, la pensée crée le temps, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu crées dans un univers dans lequel tu t'installes et tu ne sors plus parce que c'est une sorte de cadre rassurant.
C'est un cocon.
Ouais, un cocon qui permet de supporter l'idée qu'il y a du changement, y compris dans ton propre corps.
Quoi. Parce que finalement, le fait que la science-fiction rebute un certain nombre de personnes, qui a ça ? Pas ici, j'espère. Non, mais on voit quand même qu'il y a des gens qui sont assez réfractaires à l'idée de lire un livre qui se passe dans le futur. Et parce que pour eux, ça leur semble... Ils ont du mal avec le fait que ce ne soit pas lié à quelque chose qui existe ou qui ait existé et que ce soit seulement de l'hypothétique. Est-ce que finalement, c'est pas lié à cette idée de pas penser à l'évolution, aux évolutions futures ? Parce que moi, je sais que j'adore lire de la science-fiction, j'adore imaginer ce qui pourrait arriver dans les années à venir et je pense qu'on est tous là pour ça un peu... Quand on parle de l'homme du futur, c'est qu'il y a plein de possibilités différentes. Et est-ce que finalement, on ne peut pas faire le lien avec ce que tu viens de dire imaginer que c'est ça qui rebute les gens, parce qu'ils ont ce côté un peu vouloir rester dans ce qu'ils connaissent et dans ce qu'ils savent être...
Oui, une réflexion souvent qu'on me fait dans les salons généralistes où donc, je suis à côté d'auteurs un peu sérieux, on va dire. c'est vrai que les livres de science-fiction sont reconnaissables parce qu'ils sont illustrés, donc très colorés, et que les gens y passent, ils font... Et ils vont à l'autre auteur,
ça
là.
Ça fait peur.
Et les gars, je cite des livres et tout. Oui,
ça me fait peur.
Ça me fait peur. Je dis, vous en avez lu ? Non, mais ça me fait peur. Voilà. C'est une espèce de peut-être le sentiment de perdre des repères, effectivement, d'un seul coup happé par quelque chose de différent, d'être projeté dans l'espace-temps.
Mais c'est ça.
Et où on perd tous ses repères, toutes ses certitudes. Ouais. C'est que des gens, certains lecteurs n'acceptent pas de perdre leurs repères.
Donc finalement, ça nous aide à penser à cette idée qu'il faut que tout change tout le temps. Quoi.
Tout change tout le temps, objectivement.
Oui, mais peut-être que c'est à mettre en parallèle avec la... Moi, je crois qu'il y a davantage la peur de la mort. C'est la peur de mourir.
C'est la peur fondamentale.
C'est la peur fondamentale et c'est le motif de tout. Quoi.
C'est la grande peur qui sont toutes les autres peurs, effectivement.
Ce qui est étonnant, alors je reprends par rapport à cette idée de spiritualité, c'est que pourquoi justement on fait de la mort une espèce de finale, parce qu'aujourd'hui on est même dans des avancées scientifiques qui se refusent, parce que si on pose la mort comme étant quelque chose de définitif, par exemple pour l'humain, ça veut dire que d'emblée on éliminerait, au nom peut-être de raisons scientifiques, qu'il n'y a pas de suite à ça. Alors que bon, on a dit en même temps, rien ne se crée rien ne se perd, tout se transforme, c'est-à-dire qu'à partir du moment, cette chose qui nous fait tant peur et qui s'appelle la mort, est-ce que penser un au-delà, penser en termes de, il y a l'humain, mais il y a, c'était un peu dans le thème de oui, la journée, il y a son âme, il y a, on a dit, et l'âme dans tout ça. Bon, alors c'est évident que scientifiquement, c'est presque, enfin en tout cas, la science mainstream se refuse à intégrer des concepts comme l'âme dans la même réflexion. Et pourtant, il semble bien que là, il y a un point d'achoppement où il y a quelque chose qui se poursuit de nous-mêmes, bien au-delà de la mort. Bon, aujourd'hui, on peut plus reculer. Par exemple, les morts imminentes, quand les gens reviennent en décrivant à peu près tous le même monde. Il y a 30 ans, on avait 3 témoignages, on va dire. Aujourd'hui, on en a des milliers. Et la science se donne les moyens aujourd'hui, avec des physiciens comme Philippe Guimand, d'aller au-delà de ça. Et on se rend compte que peut-être que c'est ça l'humanité. Moi, je ne crois pas à celle, effectivement, développée par les Google. S'il y avait Kurzweil, il dit, là, dans cette salle, bon, peut-être statistiquement, il faudrait que vous soyez plus nombreux. Mais lui, il dit, il y en a parmi vous, il y en a au moins 2 qui vivront jusqu'à 1000 ans, qui atteindront l'âge de 1000 ans. Bon, ça, c'est ce que cherche une grosse partie aujourd'hui. Parce que malheureusement, c'est eux qui ont les moyens, les labos, les trucs. Bon, il y a cette idée de prolonger, mais si c'est pour prolonger, comme dit un autre penseur, Laurent Alexandre, c'est quoi un paquet de chair? Le cerveau, lui, il dit, ça n'est qu'un ordinateur fait de viande. Ouais, non, il va plus loin. Moi, c'est dans ce sens qu'ils me font peur. Est-ce que ça peut n'être que ça, quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se contenter de définir ce monde en ne regardant que la matière, le côté matériel, le visible, alors que tu parlais du bouddhisme, dans le bouddhisme, ce monde n'est qu'illusion, il n'y a pas de, réalité définitive, en tout cas. Ça va se transformer.
C'est la réponse scientifique à tout ça.
Puisqu'on parle d'immortalité, il y a quand même pas mal d'auteurs de SF qui ont essayé de réfléchir à l'immortalité. Et à chaque fois, c'est une catastrophe. Je pensais à Face au feu du soleil d'Asimov, je ne sais pas si vous avez lu, où ils ne sont pas immortels, mais ils ont des durées de vie tellement longues que toute la société est complètement figée, parce que de toute façon, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance, ou alors il n'y a pas assez de place. Donc une société qui n'a pas de naissance, c'est une société qui ne bouge plus, qui ne peut plus rien découvrir. Il y a un film que j'adore, que certains considèrent comme un nanar, qui parle de ça. C'est Zardoz.
J'adore
Sean Connery en slip.
J'adore Zardoz.
Mais non, mais il est magnifique, cette
film. Faut pas vous arrêter à Sean Connery en slip. Moi aussi, je trouve que c'est vraiment un bon film.
Ah, oui. C'est un très bon film.
Ça sent quand même les années 70. Ça part dans tous les sens, mais il y a plein d'idées géniales dedans.
C'est ça.
Ouais, c'est un peu crack, ouais.
Et il parle de l'immortalité aussi avec cette enclave et la barbarie de l'extérieur qui, en les tuant, va peut-être sauver le monde. On sent que le monde est prêt à renaître. Enfin bon, il travaille très bien sur cette question-là. Et il y a autre chose que je voulais dire aussi, quand on parlait des difficultés qu'ont les amateurs, alors nous on dit les amateurs de littérature mimétique, quand on veut faire chic. Les choses qui ressemblent au réel, au présent ou au passé. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le réalisme, c'est vrai, ça existe ou ça a existé, ou la vérité, avec la signification. Nous, on travaille sur le sens, sur la signification, et on en parle dans nos récits. Mais on n'a pas besoin d'être dans le réalisme pour avoir du sens, et pour travailler sur la signification. Et si on s'en tient au mimétisme et au réalisme, on tourne un peu en rond sur la question du sens, parce qu'on l'apprend toujours de la même façon et sous le même angle. Nous, on se donne la possibilité de décaler les points de vue et de regarder autrement. Et on fabrique du sens.
Après, toi, dans tes nouvelles, typiquement, tes personnages humains, parce qu'ils rencontrent souvent des êtres étranges, moi, à chaque fois que je lis une de tes nouvelles, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que tu as connu, quoi, que c'est quelqu'un qui existe, que je pourrais rencontrer demain. Quoi. Et donc, il y a quand même un ancrage dans le réel, ou dans le réalisme, je sais pas.
On a tous l'occasion de rencontrer des humains.
Bah oui, voilà, non mais c'est sûr. Mais faut quand même pas négliger qu'il y a une part d'inspiration réelle.
Mais ils sont pas tout à fait dans le même monde. Les règles sociales, les environnements, Quelquefois, ils sont très peu décalés. Oui. Mais il faut qu'il y ait un décalage. Oui. J'ai essayé d'écrire de la littérature mimétique pour voir. Je me suis embêtée. Ouais. J'avais l'impression de dire des trucs.
Il te manquait ton élément perturbateur qui vient changer notre point de vue, quoi. C'est ça. Revenir sur un peu sur l'homme du futur, du coup. Il y a un thème que j'aime beaucoup en science-fiction, c'est le thème un peu de la mutation, le thème de différentes humanités qui se côtoient. On trouve ça, par exemple, dans Télé Pierre, ça arrive plusieurs fois, qu'il y a en quelque sorte plusieurs races d'êtres humains en même temps dans un futur. Je pense aux fables de Lumpur, je pense même dans Les Guerres du Silence, on a les. On a plusieurs types d'humanité un petit peu. Quand on pense à la préhistoire, on avait en même temps plusieurs races d'hommes qui se côtoyaient. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui aussi peut. C'est un thème qui vous intéresse. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver à nouveau, par exemple des évolutions différentes de l'humain, d'avoir un jour peut-être plusieurs races d'êtres humains qui se côtoient. Alors, peut-être d'un côté ceux qui sont allés vers la transhumanité, d'autres qui sont allés vers l'écologie radicale, je sais pas, ou d'autres choses comme ça. Ça vous parle ou pas, ce genre de thème?
Tu parlais des fables de l'impur.
Oui.
Ce livre m'a été inspiré par une lecture d'un livre de Jérémy Rifkin qui s'appelle Le siècle biotech, où il parle de la possibilité de créer des chimères par un mélange des gènes. Et donc, ça crée donc mes personnages, enfin ma civilisation, crée des chimères qui créent des hommes rats pour faire des poubelles, des hommes gorilles pour faire la guerre, enfin, etc. D'où, à un moment, ça crée une deuxième race qui est mi-humaine, mi-animale, qui va essayer de prendre la place d'une autre parce qu'elle veut s'imposer aussi, elle aspire à vivre et elle va finalement, comme toute créature un peu qu'on a du mal à maîtriser, va faire disparaître l'humanité, tout simplement. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de. C'est une forme de transhumanisme, c'était de voir à quel point on pouvait jouer avec les mélanges génétiques et à quel point on pouvait ne pas maîtriser cette chose-là. C'est-à-dire que c'est comme la créature qui se retourne contre son créateur, ces créatures-là se retournent aussi contre leur créateur et font disparaître les humains. Donc il n'y a plus d'humanité du coup. L'humanité n'existe plus. Et le trajet de mes personnages, c'est de. Au début, ils partent pour la recherche des dieux humains qui auraient existé autrefois parce qu'ils sentent qu'ils régressent vers l'animal et que certains, ça les dérange. Surtout mon homme cochon de départ, là, qui s'aperçoit que la femelle qu'il aime se fait saillir par tous les mâles de la communauté, et ça ne lui plaît pas trop. Parce qu'il a, il est,
elle est libre.
Elle n'est pas libre du tout, d'ailleurs. Et on l'accuse de péché d'individualisme. Et donc, il va s'en aller parce que ce monde ne lui correspond plus. Il va retrouver un vieil ermite qui va lui dire que les dieux humains existaient autrefois, qu'il faut aller les retrouver. Et il va être aidé dans sa quête par une femme louve, Petia, qui a aussi envie de le manger de temps en temps. Il faut qu'elle lutte contre son. Elle l'aime, mais de deux façons. Quoi. Sa chair et puis l'amour. Sa chair et sa chair, voilà. Et les personnages vont aller en quête d'eux-mêmes, de leur réalité. C'est-à-dire, ils vont s'apercevoir que les dieux humains qu'ils ont créés n'existent plus et que ce sont eux qui prennent le relais de cette humanité et qui vont s'accepter en tant que chimères. Le parcours des personnages, c'est d'aller vers une acceptation d'eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte que finalement, ça ne sert à rien d'aller chercher l'humain pur, d'où l'impur, le fameux impur. C'est toujours un chemin vers l'acceptation de soi-même.
Du coup, c'était un peu pour l'allégorie de cette idée que tu as, que tous les êtres humains sont très différents. Et de faire un humain de chaque animal, finalement, ça les rendait tous encore plus, une humanité encore plus disparate, encore plus hétéroclite.
Oui, mais je pense que. Le chemin réel de l'humain, c'est d'aller vers l'acceptation de soi-même. Après, je ne sais pas quelle forme ça prend. Moi, j'évoque la spiritualité parce que je ne connais pas d'autre voie pour aller vers l'acceptation de soi-même. Et donc, ça veut dire une sorte de regard lucide et aimant sur soi-même, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on a tous des casseroles qu'on trimballe depuis l'enfance, et même avant la naissance, quasiment, je dirais. Et donc, c'est d'aller voir ces espèces d'émotions qui nous manipulent, les regarder avec infiniment de bienveillance pour voir quels sont les mécanismes à l'intérieur de nous. Et voilà, c'est tous mes personnages, dans pratiquement tous mes romans, essaient de se débarrasser des conditionnements, quels qu'ils soient, religieux, sociaux, culturels, sexuels, enfin, tous les conditionnements qui peuvent nous manipuler, et essaient de s'en débarrasser pour trouver le chemin vers eux-mêmes. Quoi. Donc voilà, moi c'est une sorte d'obsession, parce que simplement c'est lié à une expérience, et quand j'étais petit, je n'étais pas grand, donc c'est pas ça. mystique, ce que je pouvais appeler que des éléments mystiques, je ne sais pas ce que c'était, hein, cette espèce de perception d'un bruit du monde, une sorte de murmure du monde qui me mettait dans une espèce d'état de transe, qui était un peu étonnant, enfin, sur lequel je n'avais pas d'explication bien sûr. Et donc quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit il faut aller au séminaire. Et au séminaire, j'ai vécu 4 ans où les prêtres, outre l'ambiance un peu glauque qui régnait là-dedans, sont acharnés à briser cet élan mystique parce que ça ne les intéresse vraiment pas du tout. Quoi. Parce que les seuls mystiques chrétiens qui sont par exemple du Moyen-Âge, comme Angelus Silesius, Maître Eckhart, des gens comme ça, c'est des gens qui ne sont absolument pas dans les moules, absolument pas dans les cadres. Sortent complètement du cadre. Et donc, les prêtres, ça ne s'intéresse pas d'avoir des gens qui sortent du cadre. Ils ont besoin d'avoir des soldats de la foi, des gens qui véhiculent le dogme. Donc, moi, ça m'a cassé, ce conditionnement-là m'a cassé mes élans, et que j'ai retrouvé longtemps après. Je suis sorti du séminaire où j'ai jeté le bébé l'eau du bain, et je suis devenu anarchiste de gauche, ultra-gauche, enfin, etc. Et puis, à 20 ans, je suis allé en Inde, et le pays, j'ai respiré un air mystique dans le pays. C'est assez étrange à dire, je suis sorti d'avion, et outre l'odeur, il y avait une sorte de respiration mystique qui m'a renoué avec ces émotions que j'avais enfant. Et j'ai essayé de m'intéresser à d'autres formes de chemin spirituel pour voir si on pouvait aller vers soi-même, de plus en plus vers soi-même, vers l'acceptation de soi-même, qui je pense est vraiment une des clés de l'humanité. Quoi. Voilà. Et je pense qu'on n'a pas fait chemin. Quoi. Parce qu'on est toujours, c'est comme un océan, vous voyez, les vagues à surface, et puis on n'a pas fait, on n'est pas allé dans les profondeurs, on est toujours ballotté par les vagues. Les vagues qui nous projettent tantôt à gauche, tantôt à droite, dans la violence, dans l'envie, dans ce qu'on veut. Et au fond, il y a d'autres courants qui passent. C'est ces courants-là qui m'intéressent. Et c'est un privilège d'être écrivain pour pouvoir... C'est-à-dire qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui ne joue jamais ses personnages, quels qu'ils soient, et même les méchants. D'ailleurs, les méchants sont super intéressants parce qu'ils nous renvoient une image, c'est un miroir de nous-mêmes. C'est, plus on a de répulsion pour un méchant, et plus on a la capacité d'être méchant, donc, je pense. C'est cette capacité-là en nous qui nous fait peur.
Oui, moi je disais, je suis un peu dans la position de entre les deux, c'est pour ça que je me suis mis là. C'est la position de
la géographie correspondante. Hein,
voilà, de l'alchimiste.
C'est la passerelle.
Voilà. Dans l'alchimie, on a.
C'est la sagesse avec la barbe.
Voilà, c'est le sage m'énerve, c'est, je suis connu comme ça. Dans l'alchimie, il y a Al, on le sait, c'est elle, il, c'est cette partie spirituelle, c'est le dieu. Dans la chimie, il y a le concept qu'on va s'intéresser davantage à au côté matériel des choses, on va dire. C'est cette jonction qui est à faire. C'est pour ça que moi, dans une question comme l'homme au futur, c'est pas une moutarde que de dire il sera ce qu'il sera en fonction des choix qu'il fait aujourd'hui. Un physicien comme Étienne Klein dit on perd notre temps aujourd'hui. Ce qu'il faut, lui, il dit qu'il faut coloniser l'an 2050. On est en 2017, il dit qu'il faut coloniser. Ce qu'il entend par là, c'est que ce futur, il va être fait des intentions que nous posons aujourd'hui. Quoi. C'est pour ça que ces arrivées, bon, bien sûr, Sylvie, tu as raison quand tu dis il n'y a pas d'invention mauvaise en soi. Un marteau, on peut enfoncer un clou ou défoncer un crâne. Mais si on n'a pas cette volonté de penser que si la vie a un sens et que c'est effectivement cette recherche de soi, de cette unité de soi, si ça, ce n'est pas notre objectif, je pense que l'humanité ne sera jamais atteinte. C'est quelque chose qu'on va sans arrêt repousser parce que c'est pas, on voit très bien à quel point, on parlait des guerres, à quel point ce n'est pas du tout une préoccupation actuelle. Même quand on essaie de... Voilà, de se positionner par rapport à un futur, des robots, des trucs. Moi, je reviens toujours à la question. L'âme, la spiritualité dans ça, voilà, elle est où? Et il me semble que ça, c'est le grand oubli. Bon, à part quand il y a des gens comme Pierre qui vous le rappellent, mais la science-fiction, globalement, met beaucoup plus l'accent sur les technologies, il me semble.
Il y a des auteurs différents. Après,
hein. Des interrogations fondamentales dans la science-fiction qui sont toujours là. Je pense que c'est quelque part aussi, elle s'élève aussi sur le socle des mythologies et des interrogations pré-premières. On en a eu des discussions pas mal avec d'autres auteurs. On disait que c'est une littérature purement moderne et je ne crois pas. Je crois vraiment qu'elle est
qu'elle est ancrée dans...
Elle est ancrée dans, oui, dans l'Iliade et l'Odyssée, dans,
oui, dans, on revient au grand
Gilgamesh, dans, oui, dans tous ces trucs-là. Et c'est une littérature mythologique moderne, parce qu'elle s'est trouvée, Sylvie avait raison, en disant on essaie de trouver, de dégager du sens dans tout ça. Et donc c'est bien reprendre le cours des interrogations fondamentales de l'humanité, quoi.
J'ai pas d'âme.
C'est plein.
T'as pas d'âme, c'est pas compétente. oui, et peut-être qu'on peut. Du coup, c'est peut-être comme ça que la science-fiction aura sa reconnaissance un jour en tant qu'œuvre qui poursuit le travail des mythologies, le travail de donner du sens.
Ouais, je pense qu'il y avait un besoin à un moment, parce que c'est vrai que notre perception, ouais, de l'univers a changé. Avant, c'était centré. Là on se rend compte qu'on est sur un bord de la galaxie, un petit monde, etc. Donc ça oblige à redéfinir. Avant la Méditerranée, c'était le terrain de jeu immense, inconnu, effrayant, dangereux. Maintenant, c'est l'espace. Donc ça a décalé le point de vue. Mais les interrogations fondamentales restent les mêmes. Quand vous faites un space opéra, ce qui est intéressant, c'est quand vous mettez les personnes dans un vaisseau, ça va développer considérablement leur idiosyncrasie, j'allais dire. Va les obliger à puiser au fond d'eux-mêmes pour supporter ce voyage qui est vraiment terrifiant. Enfin, vous êtes entouré d'hostilité, vous êtes dans un machin en fer qui avance, on ne sait pas comment, mais il avance. Enfin, on ne sait toujours pas comment, en tout cas. Et donc, ça va à la fois développer le meilleur et le pire en vous, quoi. Parce que vous allez dans des situations extrêmes, vous allez puiser dans l'extrême. Si on met les personnes, comme Ulysse d'ailleurs, dans son bateau, qui est un vaisseau aussi... Et la Méditerranée, un monde hostile, il y a les sirènes.
Quand on est l'ennemi de Poséidon, être sur la Méditerranée, c'est compliqué.
C'est compliqué, voilà. mais c'est des interrogations, les rencontres que fait Ulysse avec le cyclope et les créatures monstrueuses et autres joyeusetés, c'est ce qu'on fait aussi devant la SF. On rencontre des civilisations inconnues, des créatures un peu étranges, etc., etc. Donc, je pense que le schéma narratif, il est posé, quoi, depuis longtemps. Enfin,
et sûrement même avant l'Odyssée, qui a été mis à l'écrit, mais il y a eu des choses avant, à l'oral.
Bien sûr. Toujours eu cette volonté. Moi, je pense que je ne suis pas un auteur d'invention, je suis un auteur qui continue un sillon qui a été creusé depuis la nuit des temps.
Pour moi, la science-fiction moderne, pour faire le lien avec ce que vient de dire Pierre, je trouverais génial de raconter l'Odyssée vu du point de vue de Circé, ou de la sirène, ou du cyclope. Pas raconté par Ulysse. Ce serait très intéressant de tenter ça.
Ouais.
Chiche.
Oui. Oui, pour l'altérité, c'est vrai que c'est un...
Il y a un éditeur dans la salle.
Non, mais ça a été fait, par exemple, Ursula Le Guin a écrit Laviana, qui est du coup un personnage de l'Énéide, secondaire, et elle écrit du point de vue, quoi. Voilà. Alors, elle, c'était pour écrire du point de vue d'une femme. C'est pas du point de vue du cyclope ou d'une créature non humaine, mais...
Un cyclope femme, faudrait essayer.
Un cyclope femme, voilà. Comment se reproduisent les cyclopes, c'est une grande question, ça, je pense. Bon, du coup, peut-être voir si vous avez des questions, ou parce que ça fait déjà une heure qu'on parle sur ce sujet. À moins que vous ayez encore des choses à ajouter tous les trois, peut-être là.
Je sais pas, c'est intéressant.
Non, je profiterai d'être toujours à côté scientifique. Tout à l'heure, tu parlais du sens. Que toi, dans ton boulot, c'est une recherche aussi du sens aux choses. Mais est-ce qu'on peut arriver à définir un sens global? Est-ce que, quelle que soit la quête dans laquelle on va se mettre en route,
quelle question?
Oui, c'est-à-dire est-ce qu'on se contente de définir un sens pour ce qu'on découvre au fur et à mesure que les connaissances évoluent, et est-ce qu'il n'y a pas peut-être un sens beaucoup plus général qui traverse tout ça, depuis Gilgamesh effectivement, qui nous serait transmis en quelque sorte, bien sûr, à travers les mythologies, les contes, etc. Où on en est aujourd'hui, quelle place il a dans ce monde? Est-ce qu'il n'y a que les auteurs de...
Je vais être très désagréable, Ménéas. Je trouve que la question est mal posée. Il ne peut pas y avoir un sens. La question devient intéressante quand il y a plein de sens différents.
Oui, donc, mais c'était bien ma question.
Oui. Non, mais je pense que tu voulais distinguer le sens, un sens pour l'humanité, une sorte de
mouvement,
de mouvement, voilà, de but à atteindre, de civilisation. Pour toute l'humanité, et après il y a le sens de chacun dans sa vie aussi, je pense qu'il y avait un peu cette idée.
Oui, qui peut sembler bien sûr lié, mais s'il y a un but final qui nous est encore inconnu et qui nous échappe, Aujourd'hui, aujourd'hui, l'idée, c'est que, bien sûr, il y a l'individu avec sa propre conscience, mais ça fait, c'est pas moi qui vais inventer l'inconscient collectif depuis Jung, on sait qu'au moins ça existe. Est-ce qu'il y a, je veux dire, est-ce que le but, c'est pas aussi de rejoindre une espèce d'unité qui serait une conscience universelle qui nous englobe tous, et que peut-être c'est ça aussi le sens de l'individu, c'est... C'est pas dresser un point dans l'espace.
On la connaît, la réponse ultime, c'est 42.
Ah oui.
Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est la question. C'est exactement ça. Je pense qu'on peut trouver des réponses. Non, mais pour être plus sérieux, je pense qu'on peut trouver des tas de réponses. Mais toi, tu aimerais que l'on s'intéresse à quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est quelle est la question ultime. Chercher un but ultime, pour moi, ça, je ne sais pas donner du sens à cette phrase. Quel est le but de l'humanité? Je ne pense pas que l'humanité ait un but, mais parce que je pense que c'est une question qui est une certaine manière d'envisager le rapport au monde et qui a plusieurs manières de construire son rapport au monde. Dans le mien, il n'y a pas de but global de l'humanité. Maintenant, on peut chacun avoir des buts individuels. On peut avoir aussi envie de travailler à l'élaboration d'une société qui a du sens, des projets, et qui améliore l'écosystème, qui est plus harmonieuse, qui améliore l'écosystème au sein duquel elle vit. Je peux trouver des tas de buts à différents niveaux, mais un but ultime, je crois plus à une réponse ultime qu'à un but ultime. Et c'est pas qu'une boutade.
Parce que moi j'envisageais ça, le but ultime, c'est ce qui est quand même fondateur de l'idée même de Dieu.
C'est l'idée même de
l'unité.
C'est pour ça que ça ne marche pas pour moi.
Mais c'est pour dire, c'est une voie, si on se pose la question de l'homme du futur, vers quoi va-t-il, et je donnais la position de l'alchimiste, pour nous c'est évident que c'est rejoindre une unité. Après ça n'empêche pas justement... La diversité, la multiplicité des chemins personnels, mais bon.
Je crois que dans Fondamentalement, vous êtes plus ou moins d'accord, mais vous ne formulez pas de la même manière, c'est deux points de vue différents. Après, on oublie souvent que la base du terme écologie, ça devient un environnement et sa manière de fonctionner, et je pense que dans votre idée, il y a aussi que l'homme, il apprenne à fonctionner correctement, enfin, dans son environnement, et que ce soit un fonctionnement qui ne va pas que dans un sens, et que ce soit une harmonie.
C'est ça.
Du coup, Lionel, tu as une question?
Merci.
Mais je crois qu'on est d'accord sur l'idée qu'on transforme tout ce qui est acquis en changeant l'environnement des bébés à la naissance, mais on n'est pas forcément en train de transformer l'inné et leur potentiel.
Non, mais à très long terme, il peut y avoir des transformations notamment sur les tablettes, mais des transformations cognitives, des transformations anthropologiques très profondes qui vont créer une nouvelle humanité. Et bon, l'homo sapiens sapiens, c'est peut-être pas... le dernier truc qui existe, quoi. Il va certainement y avoir d'autres transformations humaines. Est-ce qu'elles seront pessimistes ou pas? Si nous pouvions perdre un peu de notre violence, j'en serais ravi. Et si les technologies, d'une certaine manière, pouvaient nous amener à et peut-être nous sortir de cette partie animale qui est très problématique,
je pense qu'on ne pourra pas, avec la technologie, sortir de l'animal. Hein.
Non. Mais on ne sait pas, de toute façon, on ne sait pas comment l'homme peut être élevé. De toute façon, c'est de l'adaptation. C'est adapté.
Oui, mais après, quand on veut changer la surface, si on ne change pas le fond, à mon avis.
J'ai une petite. Oui, voilà. Quelque chose qui m'a interpellé de ce que vous disiez, qui est. Vous l'avez redit là. À la naissance, à partir de la naissance, j'avais cru comprendre que pendant la grossesse, l'environnement de la mère est important pour les.
On peut démarrer à la conception, oui, ça.
Ben oui, j'avais cru comprendre ce qu'écoute la mère ou dans son environnement, c'est important pour ce que va faire l'enfant.
Oui, oui, c'est vrai.
Vous êtes d'accord avec
tout à fait.
Donc c'est pas la même chose qu'il y a 1000 ans.
C'est moins connu, mais non, c'est vrai qu'il faut démarrer à la naissance de l'embryon.
Ça, parce que vous avez des familles super aisées dont les enfants vont être très mal, avoir une sorte de malaise permanent. Alors qu'ils ont un environnement privilégié, et puis des familles.
Puis trois enfants ne vont pas avoir la même chose.
Les enfants vont être très différents, et puis des bidonvilles ou des conditions de vie exécrables, où ça va donner des fleurs, quoi, des fleurs qui poussent sur le fumier. Donc c'est tout ça est.
Mais l'environnement joue quand même, je pense, pendant le.
Pendant la grossesse, oui.
C'est là où je me demande s'il n'y a pas, tu parlais, Ménéas, tout à l'heure, de la vie après la mort ou avant la mort, s'il n'y a pas une vie avant la mort aussi. C'est-à-dire qu'on arrive avec une sorte de capital, de passif. Alors là, on rentre très loin dans les croyances.
Avant la naissance.
Oui, et qu'on a cette espèce de capital qui, quoi qu'il arrive, nous suit, quelles que soient les conditions. Moi, je fais de la science-fiction, je suis fils de paysan. Hein. Mon père et la science-fiction, c'était une sorte d'opposé total. Quoi. Donc, je n'avais rien pour faire de la science-fiction un jour. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait de la science-fiction un jour ? C'est très mystérieux, tout ça. On peut, après, nous, quand on devient parent, on dit, bon, on va avoir des principes éducatifs vachement bien et tout, et on s'aperçoit que nos enfants nous disent n'importe quoi. Bah oui, mais nous, on a essayé de nous tirer. Oui, mais vous n'avez rien tiré du tout. Nous, voilà, c'est... Donc tout ça est très mystérieux. L'humain est complexe, mystérieux. Son cerveau n'est pas très bien connu. Quand vous discutez avec des neurologues, ils disent, bah oui, les maladies liées au cerveau sont extrêmement mystérieuses. Donc, on a plein de mystères sur l'humain. Donc, je pense que c'est intéressant d'explorer l'humain sous toutes ses facettes. Et que l'outil science-fiction, l'outil fantasy, l'outil imaginaire globalement, est un outil formidable pour ça.
Mais si on nous en laisse le temps. À propos de transhumanisme,
il y a quelque part.
Hein. Ben ouais, non, mais Pierre Rabhi demande, lui, à l'inverse de ta question, y a-t-il une vie avant la mort?
Oui, ben bien sûr.
Mais pour revenir au transhumanisme, on a en France Laurent Alexandre, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est neurologue, mais il s'intéresse énormément, lui, au transhumanisme, à tel point qu'il a été récemment entendu au Sénat, par les sénateurs, parce qu'il faut savoir quelle position les pays vont prendre par rapport à cette arrivée du transhumanisme. Au sens de l'augmentation des manipulations génétiques qui sont en cours. Et moi, je l'ai vu intervenir sur une conférence où le public était fait pratiquement que de médecins. Et déjà, ils leur ont dit, mais là, vous avez 25 ans. C'est-à-dire que même dans l'étude des neurosciences par l'être humain, il dit, mais non, oui, mais là, ce que vous ne voyez pas venir, c'est le développement de l'intelligence artificielle qui est beaucoup plus rapide que votre propre compréhension des choses.
Il faut lire le
et dit aux médecins, dans 20 ans, il y a un certain nombre de secteurs de la médecine qui vont disparaître parce que l'ordinateur est d'ores et déjà plus performant en termes de connaissances liées à la robotique. Il va pouvoir opérer, on va pouvoir se passer d'un grand nombre de métiers. Donc, je veux dire, c'est pas une réflexion. Il lit pas en l'an 3000. On n'est pas là dans la science-fiction.
Il y a un livre de Jean-Michel Truong qui s'appelle Totalement inhumaine et qui est glaçant, quoi. Parce que lui, il dit que c'est un auteur de SF et spécialiste des intelligences artificielles. Et il dit que ces intelligences artificielles vont finir par se connecter entre elles. Et du coup, la vie va dire, bah, tiens, finalement, c'est un peu plus fiable que ces espèces de machins organiques qu'on ne sait pas comment faire. Créer une forme de vie totalement différente où les humains deviendraient des sortes d'animaux parqués quelque part sans plus aucune décision sur leur propre vie. Et quand il avait fait cette conférence-là à Poitiers, je me souviens, en 99, je crois, tout le monde était pétrifié sur son siège.
Oui, c'est glaçant. Oui.
C'est très glaçant.
J'ai une question, j'ai une question pour ce que vous avez dit tout à l'heure, mais donc j'ai discuté hier soir avec d'autres auteurs. Là, il y a une accélération. C'est ce qu'un Asimov pouvait imaginer à 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, on est à 10 ans, 15 ans. Ouais. Et donc, finalement, si on revient pas sur mettre l'humain dans un contexte qui soit psychologique, technologique ou autre, et le projeter dans un futur proche, pour qu'il se pose vraiment des questions sur lui, et ça c'est le rôle de la littérature de l'imaginaire au sens très large du terme, on est mal barré, parce qu'en effet, si on se laisse piloter par une intelligence artificielle qui va faire des calculs d'optimisation, à un moment, l'humain devient une quantité négligeable.
Parce qu'on n'a pas trouvé notre place.
Ça dépend ce qu'on lui fixe comme objectif aussi. Si c'est le libéralisme qui définit les objectifs des IA, moi je suis terrifiée.
Oui. C'est déjà le cas avec le trading en séquence. Hein.
Mais c'est pas l'IA qui me fait peur, c'est la totalité qu'elle sert et l'objectif de celui qui est son commanditaire.
Parce que le souci numéro un, il faut pas, dans un monde d'ordolibéralisme tel qu'on vit, c'est aura accès aux soins celui qui en aura les moyens. Donc on peut entrer à tout moment dans un processus de guerre ou d'élimination. Ceux qui vont vivre 500 ou 1000 ans parmi vous, ce sera au détriment des autres. Alors vous n'avez pas eu de chance. Et voilà. C'est celui qui pourra s'offrir d'abord les services.
Y a-t-il un milliardaire ici? On saura tout de suite qui.
Il y a un système de congélation quelque part.
Oui, on peut essayer.
Eh oui, c'est... qu'il y aura forcément un moment, forcément je ne sais pas, mais à un moment où il y aura des transhumains et des non-transhumains, quoi, parce que c'est aussi la technologie, c'est aussi de l'argent. Et que,
d'ailleurs, il y a ces petites expériences qui sont menées sur les gens qui ont des puces RFID sous la peau. Pour faire partie de telle boîte de nuit à Barcelone, les gens acceptent de se prendre une puce sous la peau. Iran qui sont reconnus. Maintenant, imaginez qu'on ouvre ça à tout le monde et qu'on paye ses courses comme ça.
Ça existe en Corée.
Oui.
C'est ce que Jean-Luc disait hier soir. En Corée, il y a des quartiers haute sécurité en Corée, de gens très friqués, où en fait, ils ont tous, mais animaux, enfants, femmes, tout le monde.
Plus RFID.
Pour savoir, mais pas
qui ont
pas que GPS et tout ça, on sait exactement où ils sont.
On sait où ils sont. C'est de la localisation.
Ils n'ont plus de portefeuille et ils payent avec leur personne. Quoi.
Comment? Ma main coupée, ça s'appelle.
Bon. Ça fait très longtemps que je l'ai vu.
Maintenant, vous connaissez tous la fin. Hein.
Mais ça existe déjà en France. Il n'y a pas que la Corée. En France, moi, j'ai vu un reportage sur des gens qui ont la puce RFID pour ne plus avoir à saisir leur digicode quand ils rentrent chez eux. On passe le poignet devant le
mec. Donc, si on accepte ça...
Et c'est déjà accepté par quelques-uns. Quoi.
Il y a même pire que d'accepter, il y a une demande.
Il y a de la demande, c'est surtout ça.
C'est aux Pays-Bas, ça, ou en Flandre, il me semble.
Ouais. Après, il y a des choses magnifiques. Par exemple, quelqu'un qui est atteint d'un diabète de type très puissant, on leur met une puce sous la peau qui va mesurer à la milliseconde près leur taux et de toutes les caractéristiques de leur sang, etc. Et il a automatiquement des produits qui vont s'injecter en temps réel pour contrer l'effet d'un... Donc voilà, ça permet à cette personne de vivre, par exemple.
C'est l'outil, un outil.
C'est l'outil, mais apparemment on l'utilisera. Le même Laurent Alexandre nous donne un exemple. Il dit dans l'histoire de l'humanité, des inventions de l'humanité, il y en a une seule qu'on a refusée, mais après l'avoir essayée une fois, c'est la bombe atomique. Sinon, on ne connaît aucune autre invention. Chaque fois qu'il y a une invention, on le sait, les gens ont peur à l'arrivée de l'électricité, de la voiture. Mais non, ça finit toujours par être intégré au point qu'on accepte tout. On a accepté l'informatique, on accepte tout ce qui sort, tout ce qui nous semble un progrès. Pour le moment, à part la bombe atomique, il n'y a pas eu d'exception.
Donc, elle n'est pas assez puissante, je crois. Il en faut une qui détruise tout le système solaire, là, ça ramène de la classe. Quoi.
Il n'y aura plus de questions, là, pour le coup. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, je crois qu'il y aura plus.
Parce que le soleil, c'est juste une grosse bombe nucléaire, après tout.
Oui. Autocontrôlée.
Oui.
Bon, une dernière question peut-être. Je crois que bon. Eh bien.
Ah, là-bas.
Ah, allez.
C'est une question beaucoup plus terre à terre.
Eh bien, c'est pas grave, il n'y a pas de problème.
Vous n'êtes pas présenté, vous parlez de librairie.
Oui, alors. Oui, donc ouais, moi je m'appelle Laurent Fidel, donc ouais, je suis libraire moi, en fait, dans une librairie à Vienne, librairie Luciole, et moi mon but en tant que libraire c'est de promouvoir les littératures de l'imaginaire, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, voilà.
Il est bien, hein.
On en a besoin de possible
pour ouais, que... On lui a dit, voilà, l'arme pour d'autres.
C'est gentil. J'essaie de faire mon possible pour faire découvrir ces littératures des gens qui ne les connaissent pas, et c'est aussi pour ça que je posais la question tout à l'heure par rapport à est-ce que c'est ça qui rebute les gens. J'essaie de comprendre un peu les mécanismes qui font que, en fait, je ne comprends pas moi, intrinsèquement pourquoi la science-fiction n'est pas devenue une littérature acceptée par tout le monde, comme l'est maintenant la littérature jeunesse, comme l'est maintenant le polar, comme en fait c'est le dernier ghetto, c'est le dernier ghetto de la littérature.
Non, il y a en dessous, il y a la fantasy encore.
La fantasy. Ouais,
il y a encore en dessous, il y a la fantasy jeunesse.
Voilà. Ah ouais, c'est terrible.
Et la bitlite alors là, je sais pas. Ça c'est une sorte d'ovni, on ne sait pas trop.
Voilà, ouais.
Non, mais c'est une forme de philosophie quoi.
Oui. Voilà. Ouais.
Parce que ça oblige les gens à réfléchir, peut-être que vous
pensez. Ouais. Oui, mais personne n'ira critiquer l'intérêt de la philosophie, même si peu de gens en lisent.
Gérard Klein disait qu'on n'aimait pas lire des récits concernant l'avenir, le futur, ouais, l'avenir, parce que ça se passerait à une époque où on serait mort.
Ah, ah ouais, peut-être.
C'est une forme de tristesse.
La peur de la mort encore.
C'est probablement plus qu'il y a aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est probablement plus qu'il y a.
Aujourd'hui, nos enfants ont quand même des innovations sur
le... Alors, au niveau des termes, oui, c'est pas la même chose. Littérature d'imaginaire, c'est censé englober aussi le fantastique et la fantasy. Donc c'est... Moi, c'est un terme, au début, j'étais un peu réfractaire, parce que je me disais, finalement, toutes les littératures sont de l'imaginaire, parce qu'on imagine toujours la situation, même Émile Zola, c'est de l'imaginaire, ces personnages n'existent pas vraiment. Mais de plus en plus, je trouve finalement cette appellation pas assez belle, et qui, je trouve, finalement, assez satisfaisante pour regrouper ces trois genres, parce qu'on n'a pas trouvé mieux, en fait, hein, clairement.
C'est sûr que non mimétique, c'est pas
non mimétique, c'est un peu moins joli quand même.
C'est pas commercial.
Voilà, mais oui, et science-fiction, c'est vrai que moi j'ai tendance à l'utiliser encore un peu trop parce que pendant longtemps c'est ce qu'on utilisait pour définir toutes ces littératures là. C'était le rayon dans les librairies et voilà quoi.
Ça englobe
pas tout, bien sûr.
Bah, c'est humain en particulier.
Ouais, bien sûr. Et finalement, oui.
Bah si, ça existe la science-fiction avec une dimension humaine.
Bah voilà, c'est ça. Mais peut-être que science-fiction, c'est un terme qui disparaît
un jour,
je sais pas. Déjà, c'est un terme qui est apparu assez tard, en fait, science-fiction, hein, pour définir des choses qui existaient déjà. Donc ça paraît en 1929, on avait déjà plein, en fait. Donc c'est... voilà,
c'est le merveilleux scientifique, avant.
On appelait ça le merveilleux scientifique, c'était quand même pas mal. Le merveilleux scientifique, je trouve que...
Ouais, c'est déjà pas mal.
Voilà. Oui.
Bon, ça.
Ah. Ça c'est bandagien.
C'est un inconscient qui parle à un inconscient. Mais je parle pas à l'inconscient du mec un peu dans les vapes. Ouais, ouais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant dans l'imaginaire et dans les mythologies, c'est que ça appuie sur des points inconscients. Et que, enfin pour moi, la façon dont je travaille, c'est dans l'immersion totale dans l'écriture, je ramène des choses dont je suis pas conscient. C'est comme un filet très fin qui drague le fond des océans et qui ramène des choses à la surface. Pour les offrir à d'autres qui vont parler à leur inconscient. Alors peut-être que c'est pour ça que des gens détestent ou aiment quelque chose, parce que ça résonne plus ou moins dans leur inconscient. Mais je travaille de façon parfaitement inconsciente. La seule partie consciente de mon travail, c'est d'essayer de veiller à l'écriture, de façon à ce que pour le lecteur, ce soit le plus confortable possible. Mais oui, moi j'ai vraiment l'impression de faire un travail d'inconscient. L'écriture, c'est un fil d'Ariane dans mes labyrinthes, qui m'emmène dans des endroits où il y a ce gif mes monstres, gif de tout un tas de trucs, des trucs bizarres, des trucs beaux, tout un tas de... Et c'est l'écriture, ça va chercher tout ça au fond et ça le ramène. C'est pour ça que parfois on est surpris par nos propres scènes de violence ou d'horreur même qui sortent de nos esprits. Mais voilà, elles sont là et elles disent quelque chose de l'inconscient humain. Ouais. Pour moi, ouais, c'est important cette dimension inconsciente.
Moi, je crois que là, il y a quelque chose de très fort au niveau, si on lie à la psychologie un petit peu la littérature de l'imaginaire, parce qu'on va arrêter de dire science-fiction. C'est que pour moi, c'est la seule littérature qui ressemble aux rêves ou aux cauchemars finalement. Et les rêves, on sait que les rêves et les cauchemars de l'humanité sont empreints de choses très anciennes, qui peuvent même dater. J'ai vu des choses sur la préhistoire qui créent encore des phobies aujourd'hui chez certaines personnes qui sont complètement inexpliquées,
ouais,
ou des cauchemars récurrents. Et finalement, la littérature qui ressemblerait le plus aux rêves, aux cauchemars qu'on pourrait faire, bah c'est celle-ci, moi, je trouve. Hein. Et du coup, forcément, il y a quelque chose qui appelle à des psychologies profondes, quoi, je crois, chez l'être humain. Enfin, au-delà de la nécessité de s'évader, bien sûr, et de réfléchir avec un enfant.
C'est
ouais.
Un tout petit peu hors sujet, c'est la question de la conscience à travers la culture. J'entends sur la conférence d'hier, vous disiez que vous écriviez beaucoup au fil de la plume. Est-ce que vous pensez que cette intention pourrait passer aussi chez quelqu'un qui est de manière plus structurée, ou est-ce que c'est peut-être justement le fait d'écrire pas mal?
c'est le combat entre les structurants et les scripturants, c'est-à-dire la personne qui a fait son plan global avant de commencer à écrire, est-ce qu'elle va se laisser suffisamment aller pour... est-ce que ce n'est pas une tentative de contrôler par le conscient quelque chose, quoi? Ça, c'est une question. Et j'ai remarqué, j'ai discuté avec pas mal d'auteurs comme Alain et des gens comme ça, Alain Grousset, ça ne les intéresse pas tellement d'écrire, en fait, parce que ce qui les intéresse, c'est de concevoir la structure. Donc de dominer une sorte de monde qu'ils ont créé, et ils ont peur de se laisser déborder par leur propre monde. Donc du coup, l'écriture va devenir très douloureuse pour eux. Alors que le scripturant, lui, n'existe que par l'écriture. Donc il est obligé de se laisser aller complètement à son inconscient, parce que moi, je ne sais pas le soir ce qu'on va devenir mes personnages le lendemain. Et au début, ça m'angoissait un peu quand je m'endormais. Ouh là là. Et puis, ça se dénoue, c'est l'inconscient qui dénoue les choses. Et je laisse organiser l'inconscient parce qu'il me semble, enfin, pour ce qui me concerne en tout cas, qu'il est plus riche que le conscient. Le conscient me bloquerait dans certains de mes conditionnements à moi, alors que l'inconscient va au-delà de tout ça, quoi, très profondément. Et l'écriture, c'est un formidable outil, parce que même quand vous recevez des mails, les gens s'expriment énormément par mail, beaucoup plus que en moins de phrases quasiment, parce que nous, on parsème nos discours de locution parfaitement inutiles, et quand vous êtes dans le mail, c'est votre écriture qui vous emporte, et qui vous entraîne à dire des choses que vous n'avez pas prévu de dire. Et ça, c'est super intéressant. Et je pense que le travail d'écriture, pour moi, c'est celui-là, quoi. C'est d'être guidé par l'écriture qui m'emmène en moi-même. Oui, il y a un lâcher-prise. Mais c'est angoissant parce que quand vous êtes bloqué au milieu de votre livre, vous n'avez plus la lumière de l'entrée de la grotte, plus la lumière de sortie de la grotte, et vous êtes dans le noir, suspendu à votre propre écriture. Bonjour la confiance. Et là, il faut se faire confiance, quoi. Trouver le moyen d'aller jusqu'au bout, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut aller jusqu'au bout des choses.
D'ailleurs, j'ai écrit un mail à Pierre Bordage il y a 2 semaines, heureusement que je l'ai relu pas mal de fois.
Il faut confiance et avoir la confiance de l'éditeur aussi. Parce que dans ce système-là, bon, moi ça m'est arrivé d'écrire selon un plan structuré, évidemment, en ayant un début, une fin, mais quand j'ai commencé à écrire Petit Cuivre, pour le moment il n'y en a eu que 2 comme ça, je me suis interdit, dès le départ, je voulais... D'abord parce que je voulais que ce soit de l'aventure, donc je me disais, mais si tu as tout défini, il n'y a plus d'aventure. Si, ouais. Quand on part en voyage, si on sait où on va coucher le soir, tu vois, déjà, c'est pas... Sauf qu'effectivement, il y a le danger, il y a cette peur comme ça, et moi, à un moment, je suis resté bloqué 4 mois. Dans mon histoire, j'étais bloqué, voilà, sur le port de Marseille, et mes petits héros étaient arrivés jusque-là, et puis ils vont où, quoi.
C'était bouché par une sardine, non?
Ça va. Non, un bon matin, une caravelle avec des Templiers a débarqué. Bon, l'histoire est repartie, mais je veux dire, il faut aussi la confiance de l'éditeur. Parce que si pendant 4 mois, bon, où tu es né.
La terreur pour moi, c'est quand un éditeur me dit, c'est quoi ton histoire? Il dit, voilà, il y a 2 mecs comme ça, ils vont arriver une aventure. Ça te va, ça?
C'est rassurant.
C'est peut-être un peu plus facile pour toi.
Voilà, c'est ça. Je pense que... Non, mais j'ai, pour moi, le simple fait d'écrire ce qu'on appelle un pitch, c'est un mode.
Ah ouais, déjà le mot.
Pitch me terrorise, quoi, parce que je me dis, mais je vais m'engager dans des trucs dont je ne suis pas certain de pouvoir m'en sortir. Hein. Ouais. Je ne sais pas si ça va aller là-dedans ou pas, donc j'essaie d'être très flou.
De voir
tes
5 lignes et tout d'un coup, tu te rends compte que non, c'est pas ça.
De toute façon, je préviens l'éditeur, je vous envoie, je t'envoie le projet comme ça, mais ça sera peut-être très différent, radical, au courant. Mais même dans L'Enjeu mineur, hein, qui est une fantaisie historique, donc ça veut dire grosse recherche historique, la révolution, ça pose des questions à l'infini, 4 mois de recherche pure. Et à un moment, je me suis dit, mais je ne peux pas couvrir l'ensemble de la période et l'ensemble du territoire. Donc je vais définir une trajectoire à mon héros pour que j'aille chercher les informations dont il a besoin, s'il va à la ville d'Angers, tout ça. Bon, alors, comment était Angers à cette époque-là? Donc je veux partir comme ça et mon personnage est parti comme ça. Ouais, ça, tout ce que j'avais fait, ça ne servait à rien.
Terrifiant.
Et j'ai dit, ben ouais, j'irai chercher les informations dont il a besoin au moment où il en a besoin. Les 4 mois de recherche m'ayant simplement permis de me familiariser avec cette époque, avec la langue de l'époque, avec tout ça, quoi.
C'est
ça.
Quand vous avez proposé votre premier bouquin, par exemple, parce que,
bon, il était tout écrit.
Oui, parce que c'est ça par rapport aux éditeurs, le premier bouquin, c'est différent.
Ben, il faut l'écrire, ouais. C'est ça le truc, c'est qu'il... il faut écrire un livre... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, moi j'écris et tout ça, j'ai fait quelques chapitres, j'en ai réalisé, je dis, mais allez au bout de votre projet. C'est simplement si on va au bout du projet qu'on sait si on peut tenir la route d'un bouquin, parce qu'on traverse des moments très difficiles, des blocages, des tentations de sortir, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire comme vous le savez, le petit machin là qui est sur l'épaule qui dit, c'est pas bien. Et là, il faut le. Voilà, et tout ça, mais c'est tout le temps, il est tout le temps là, quoi. C'est le mental qui.
Et puis on a des hauts et des bas. Hein, quand on...
Il y a des hauts et des bas, on traverse des difficultés d'écriture, de la douleur. Ça vous emmène dans des endroits que vous n'avez pas envie de voir parce que c'est vous. Et là, il y a un petit monstre qui se balade, c'est le vôtre. Et tout à ce coup, ça, c'est un peu répulsif. Donc, il faut accepter cette aventure de plonger en soi-même. Et puis, après, c'est la façon structurante. Et c'est vrai que le structurant, l'architecte, nous, on est les jardiniers. Mais les architectes, eux, ils ont leur structure qui peut leur permettre de se raccrocher aux branches, aux cailles, sur des difficultés. Et le structurant n'a pas ça, mais en même temps, c'est jubilatoire. Hier, on discutait avec Daniel sur la conférence sur créer une planète. Elle savait quand ces personnages Daniel Martinigol, elle savait quand ces personnages allaient mourir et qui allait mourir. C'est la grande différence avec le jardinier qui, lui, ne sait pas quand ni qui. Ni quand ils vont mourir, ni qui va mourir. Et donc, on est très surpris parce que certains personnages disparaissent alors qu'on avait mis de l'espoir en eux. Et puis d'un seul coup, il est mort. On fait quoi avec? Il est mort.
Des fois, tu plantes un bulbe et la fleur.
C'est comme Martin, il arrête d'écrire parce qu'il avait plus de personnages.
C'est Martin, il arrête avec Game of Thrones. Tout le monde est mort à la fin.
Est-ce qu'il y a une adaptation qui peut être faite cinématographique ou télévisuelle? Je ne sais pas si vous en avez.
Il y a une adaptation des Fables de l'Impure en BD.
Ouais, puis il y a un projet de film là qui s'appellerait Les Fables de l'Homme. D'après ce que j'ai compris, apparemment, c'est des Suisses qui ont ça. J'ai pas trop mon mot à dire, hein. Après ils achètent les droits.
Parce que dans ce cas-là, les personnages peuvent évoluer différemment.
Ah, complètement. Je pense qu'un bon film tiré d'un livre, c'est un livre qui trahit complètement film qui trahit complètement le livre. C'est pas le même mode d'expression et qu'il faut accepter que ces personnages servent à d'autres un autre imaginaire.
Et puis pour le coup, un film, on est obligé de structurer beaucoup. On peut pas être jardinier, quoi.
Voilà. Enfin, alors j'ai
difficilement sur un film de science-fiction en tout cas.
J'ai été scénariste aussi, donc c'est deux catastrophes industrielles. Donc,
oui, dans un très bon Kaina.
Kaina, c'est encore ça.
C'était encore autre chose.
Parce que j'ai commencé à participer au scénario et puis j'étais pas trop d'accord avec la façon dont ça évoluait et donc j'ai dit, moi j'arrête.
Ah oui.
Et après, le producteur m'a dit, j'aimerais bien qu'il écrive le livre quand même. Oui, j'ai changé complètement le scénario.
D'accord.
Parce que je suis têtu.
Si vous n'avez pas aimé le film, vous pouvez lire la novelisation de Kaina la prophétie par Pierre Bordage.
Voilà.
Ça peut-être mieux, ça vous plaira peut-être.
Cinéma, c'est des chaînes industrielles, c'est des enjeux financiers énormes. Un auteur a toute liberté au cinéma, on a très peu de liberté.
Aux séries, je veux dire, des séries.
Mais même les séries, en France, monter des trucs en France, qu'ils soient ambitieux, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Extrêmement. Normalement, il faut Mimi, Nati et Roger Hanin, mais lui, il n'est plus là, mais si on n'a pas ces deux-là, on a du mal à monter.
Non, parce qu'en parallèle de ça, on a parlé carrément, il y a le glacé qui est
Ah ouais.
Bernard Minier
qui a été adapté en série sur M6.
Ouais, ouais.
Bon, on a voulu regarder parce qu'on avait adoré le bouquin, mais les personnages, des fois, n'avaient plus rien à voir.
Mais autant une série policière, il y en a beaucoup en France, mais une série de science-fiction, il n'y en a jamais.
Il y a eu Trépalium,
ouais, c'est vrai.
Il y a eu Olivier Marchal qui a fait une série sur Canal.
Oui, c'est ça.
Comment s'appelle
Trépalium.
C'est Trépalium.
Moi, j'ai regardé un bout, j'ai pas vu.
Mais en fait. Bon, je peux en parler un peu parce que moi j'ai fait un mémoire sur le cinéma de science-fiction en France et à la télévision. Mais je peux vous dire que s'il y a des choses qui se font, c'est des choses qui se font avec très peu de moyens et de manière très intimiste. Ça va être plus des scénarios d'anticipation ou des thrillers avec un léger côté science-fiction. Ouais. Mais les romans de Pierre Bordage, les nouvelles de Sylvie Lenné ou les romans de Nina Smartfield, c'est une autre dimension. Là, ce serait très complexe. À part peut-être certaines de tes nouvelles qui sont peut-être plus intimistes.
L'Opéra de Chaya, je pense qu'on pourrait.
On parle en millions d'euros à chaque fois.
Ah, là,
L'Opéra de Chaya, ce serait faisable, ce serait ambitieux quand même. Mais ce serait beau. Hein. Faudrait que ce soit bien fait. Parce que c'est quand même une très belle nouvelle que je vous encourage tous à lire.
Ça, c'est quelque chose qui commence à changer justement avec les communautés d'internautes.
Oui.
Mais crowdfunding.
Mais les producteurs.
Oui,
bien sûr.
Les
producteurs de télé en France ou de cinéma sont toujours très très frileux. Hein. Parce qu'il n'y a pas eu le succès qui leur prouvait que c'était possible. Donc on va voir le Valérian Desson sous sa donne, même si je pense que c'est produit par des Américains. Mais bon.
Oui, c'est
pas un projet français.
Non, mais
bon, on va conclure parce que ça va être l'heure de manger pour tout le monde.
Il y avait la demoiselle qui voulait poser une question.
Il y avait une dernière question. Alors rapide.
Ouais.
Dehors tout de suite.
Ah bah merci d'être venu.
Non, c'est très bien que vous soyez là.
Merci d'être venu.
Voilà, et c'est par curiosité aussi, et je pense que c'était pour revenir à ce que vous disiez, ça peut être lié à un problème d'identification, où du coup, c'est vrai que plus on grandit, plus on a des normes, on a du mal à au final sortir du monde réel pour
Ça, c'est le monde réel.
Pour attirer l'attention.
Et du coup, je pense que lui, c'est bien, il a vraiment la capacité de se projeter et du coup, on s'auto-censure en se disant, bah, c'est pas une littérature qui est faite pour nous, parce qu'on est adulte, c'est parce que du coup.
J'entends souvent ça.
Voilà, et je pense que ça peut être aussi lié à un phénomène de rejet de mode, entre guillemets, parce que du coup, c'est vrai que c'est une littérature qui est foisonnante en ce moment où il y a plein de choses et on a un discours des médias qui nous inciterait à lire, etc. Et du coup, ça peut être lié au fait d'être perdu. Et du coup, voilà.
Vous avez essayé d'en lire ou pas, du coup?
Oui.
Il y a des choses qui nous ont plu.
Oui, il y a des choses qui
n'ont plus. Après, tout n'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr.
Il y a une grande variété.
Il y a beaucoup de choses très différentes, mais on peut tous, je pense, tout le monde peut trouver dans la littérature de l'imaginaire quelque chose qui lui plaît. Et autant les gens le trouvent dans le cinéma, à l'heure actuelle, il n'y a plus que ça. C'est-à-dire, tous les films qui ont du succès, c'est des films d'imaginaire, en fait. Bien sûr. Et dans la littérature, ça reste boudé.
C'est un problème de légitimité.
Ouais, mais bien sûr. Et moi, je pense que cette légitimité, du coup, bah, j'en viens à ma conclusion, c'est super.
Les Marvel, tout ça, c'est des adaptations de choses qui existent.
Pour les super-héros.
Mais cette légitimisation, elle peut venir du coup de ce lien qu'on faisait, de réfléchir sur notre société avec un angle différent, mais de récupérer tous ces mythes et le rôle qu'ils avaient dans notre société auparavant, hein, Pierre.
Je pense que les auteurs ont une responsabilité.
Aussi.
Les auteurs doivent poser des passerelles pour les gens qui ne sont jamais entrés dans l'imaginaire. Donc on a un effort d'humilité à faire parce qu'on ne s'adresse pas forcément à des gens qui ont les codes. Donc ça veut dire réexpliquer à la base depuis le départ, quoi. Mm-hmm. Donc essayer de faire entrer la personne de façon assez douce. Moi je vois mon premier cycle, il y a du silence, c'est, il y a 80 pages à se farcir de d'informations, et donc les gens ont du mal à passer ce cap-là.
Moi je ne conseillerais pas les guerres du silence à quelqu'un qui n'a jamais lu de littérature d'imaginaire et qui voudrait se lancer.
Ouais.
Mais en revanche, après j'ai travaillé de façon beaucoup plus souple, douce, pour que les gens puissent rentrer en pente douce justement dans les univers et s'y sentir bien. J'ai fait le test avec ma voisine de Bousset, qui lisait pas de science-fiction. Son mari lisait tous mes livres, elle aucun. Et il emmenait mes bouquins en vacances et il lui a filé La Fraternité du Panka. Elle est revenue, j'adore ce livre. C'est space opéra, donc ça emmène très loin. Et c'est simplement parce qu'il fallait, elle, qu'elle dépasse son propre préjugé par rapport au livre. Et moi, en tant qu'auteur, que je l'invite aussi dans mon univers. Beaucoup d'auteurs s'adressent à des. Ne font pas cet effort de donner les codes et donc s'adressent à des gens qui ont déjà tous les trucs et qui peuvent rentrer très facilement dans un univers. Mais c'est pas évident. On a une responsabilité là-dedans, je pense.
Voilà. Et puis ce qui est dommage aussi, c'est que du coup, ça veut dire qu'en tant qu'adulte, on perd notre faculté à développer l'imaginaire. Et, et du coup, c'est hyper.
Ben, on bâillonne l'enfant en soi, quoi.
Ouais. Et on cherche au final une utilité un peu à tout. Enfin, par exemple, la littérature réaliste et tout ça. Moi, je sais que je peux chercher des affinités avec les personnages, au niveau du ressenti et tout. Et au final, on perd juste le côté pour lire et pour rêver et pour.
Bah après ça fait une société très triste, quoi. Après il y a les auteurs qui ont un rôle et il y a les médiathécaires comme Frédéric Malbesin qui organise ce qu'on est en train de vivre là, tout le festival ici. Il y a les libraires comme moi, il y a les éditeurs, il y a tout un pan de la chaîne du livre. Tout le monde, on a tous un rôle à jouer.
Oui, parce que la télévision, faut pas compter
dessus. Ah non, faut pas compter sur les médias. Hein. Et le problème, c'est qu'il y a des médias spécialisés qui sont très bons, mais ils sont
spécialisés. J'étais invité à France Inter il y a pas longtemps.
Oui, je vais écouter l'émission d'ailleurs.
La radio un peu, mais la télévision.
Voilà, la radio, ça bouge un peu, mais la télévision, non.
Oui, d'ailleurs, la radio, il y a Mauvais Genre sur France Culture, qui est une très bonne émission. Voilà, il y a des choses qui se font. Voilà. Et puis, si vous voulez, s'il y en a d'autres qui ne lisent pas beaucoup de littérature d'imaginaire, vous pouvez commencer par la nouvelle de Sylvie Lainé.
Alors, c'est vrai que les nouvelles, il ne peut pas y avoir 80 pages d'explication.
Les nouvelles de Sylvie, elles font 5-10 pages souvent. Alors,
78 seulement, pages.
Ah oui, seulement 78. Dans l'Opéra Chaya qui en fait 80. Non,
l'Opéra Chaya, 150.
Il y a une partie de la science-fiction qui s'appelle de la Hard Science, où ça concerne 1000 personnes en France. Ils ont assez pointus scientifiquement qui peuvent développer des concepts scientifiques. C'est un genre de science-fiction qui est très difficile pour les non-initiés, qui est vraiment centré sur les évolutions technologiques scientifiques. Et donc, bon, après, l'anticipation, ça n'a rien à voir. Steampunk, ça n'a rien à voir.
Au final, la majorité des gens ont lu 1984 ou Le Meilleur des Mondes et ils ne se rendent même pas compte que c'est de la science-fiction en fait. Ouais. Et ils ont aimé.
La classique.
Voilà.
Les classiques sont acceptés.
Kerboul, Barjavel.
Voilà, Barjavel, La Planète des Singes.
Dans 100 ans, on sera dans l'Académie. On sera mort depuis longtemps. Ce
qui correspond à la définition de Jean-Patrick Manchette qui disait tout ce qui est académique est charogne. Donc, voilà. On n'est pas pressé d'être académisé en fait.
Par contre d'être reconnu. Voilà.
Oui, oui, j'ai quelques oui, textes dans les manuels scolaires.
Il y a une nouvelle de...
Ce qui n'est pas bon signe.
Il y a eu un recueil de nouvelles qui est beaucoup lu aux collégiens qui s'appelle Nouvelles de notre planète. Où il y a
nouvelle VTM.
Où il y a une nouvelle de... C'est ça ? Non, c'est dans Nouvelles de notre planète qu'il y a une nouvelle de toi, je crois.
Dans, non. Ah oui, Nouvelle ouais. verte. Non,
nouvelle de notre planète, je crois. Ça
ouais, bah, ça a dû changer de titre.
Voilà, et qui, où il y a une nouvelle de Pierre Bordage et je ne sais plus qui c'est qu'il y a d'autres, mais il y a quelques auteurs de science-fiction pour montrer... Ça parle d'écologie en général, mais du coup, ça a un autre point de vue là aussi. Quoi. Voilà. Et ben, merci à tous.
Merci.
Maintenant, on va manger. Ouais.